Le témoignage de Dieu est un témoignage caché. Dieu veut se révéler à qui il l'entend, librement, souverainement. Il n'a pas décidé d'être connu de tous au même moment, au même endroit. C'est lui le souverain maître de la révélation. Ainsi, Jésus, le Fils de Dieu, qui est le témoignage caché de Dieu, du Père, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, est un témoignage caché par excellence. Sous les apparences d'un homme humble, il est Dieu qui se cache. Dans Ésaïe 45, verset 15, nous savons que Dieu se cache. Et c'est Ésaïe lui-même qui l'affirme. Nous ne pourrons pas forcer la main à Dieu pour qu'il se révèle à nous. Il nous faudra donc une expérience de Dieu décidée par Dieu. Donc dans Ésaïe, chapitre 45, verset 15, nous avons l'affirmation que Dieu est souverain dans sa révélation et il ne veut pas se donner comme se donnerait une prostituée à n'importe qui. Il ne veut pas se donner comme une perle qui se donne au cochon. Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Voilà le verset que affirme Ésaïe. Dans Jean chapitre 10, au verset 39 à 41. Ils cherchèrent encore à arrêter Jésus, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, et là beaucoup crurent en lui. » Nous voyons la difficulté pour les personnes de cerner la personnalité de Jésus. Et qu'est-ce que vient de dire Jésus au verset 38 ? Au verset 37 et 38, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ses œuvres, à ses actions, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. » Le « quand même vous ne me croiriez pas » est bien l'expression de la difficulté de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme l'envoyé de Dieu. Et pourquoi ? Tout simplement parce que dans Ésaïe, au chapitre 6, Dieu a décidé de ne pas donner automatiquement la révélation à tous les hommes. En tout cas, pour au moins pour un certain temps. Donc, dans Ésaïe, chapitre 6, nous voyons que Ésaïe est envoyé vers le peuple élu pour lui boucher les oreilles, pour lui fermer les yeux. J'entendis la voix du Seigneur, verset 8, disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous ? Pour nous, c'est-à-dire Dieu au pluriel, Père, Fils et Esprit Saint. Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, mais vous n'en apprendrez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouge-lui les yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse, qu'il ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Donc Ésaïe sait bien que c'est une sanction provisoire due à l'insolence, l'impertinence, la mauvaise conduite, le péché confirmé d'Israël. Mais c'est sûr que nous voyons bien dans Romains chapitre 11, verset 25, et d'autres versets d'ailleurs du même chapitre, que les dons et l'appel de Dieu sur ce peuple sont irrévocables, et lorsque la totalité des païens sera touchée par l'Évangile, ce peuple accédera au salut. Regardons dans Ésaïe au chapitre 29. Versets 9 à 16. Attardez-vous et soyez atterrés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non par des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, c'est-à-dire les prophètes. Il a voilé vos têtes, c'est-à-dire les voyants. La vision de tout ceci est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne peux pas, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. C'est pourquoi me voici. L'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple par des miracles et des merveilles. La sagesse des sages s'y perdra, l'intelligence des intelligents ira se cacher. » Donc, nous voyons à quel point Dieu a l'autorité pour pouvoir se faire connaître par les hommes. Et donc, il faut perdre toute insolence et toute arrogance, toute vanité pour connaître Dieu. Il faut d'abord être dans un état de profonde humilité et puis ensuite attendre le jour que le Seigneur veut bien se faire connaître à nous. Chapitre 44 d'Ésaïe, versets 18 et 19a. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Ils ne prennent pas la chose à cœur, ils n'ont ni assez de connaissance ni d'intelligence pour dire... J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le bré, j'ai rôti de la viande que j'ai mangée, avec le reste je ferai une horreur, c'est-à-dire une statue. Donc pratiquement, il est impossible d'être à la fois idolâtre et pourvu d'une immense intelligence spirituelle. Dieu ne veut pas se donner à n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Au chapitre 44, verset 25, voici ce que Dieu dit encore d'Ésaïe. Il anéantit les signes mensongers, il affole les devins, il fait reculer les sages, il tourne leur science en déraison. Au chapitre 42 d'Ésaïe, voyons ceci au verset 18 à 20. 42, verset 18 à 20. Sourd, écoutez, aveugle, regardez, voyez, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, et aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Au chapitre 35, verset 5 à 10, l'Ésaïe toujours... 35, versets 5 à 10. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans les déserts, des torrents dans la Araba. Le mirage se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine d'eau. Dans le repère où se couchaient les chacals, il y aura un emplacement pour les roseaux et les joncs. Il y aura un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et là, il n'y aura pas de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, et là, marcheront des affranchis. Ainsi ceux que l'Éternel a libérés retourneront, ils arriveront dans Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Donc on voit bien déjà que ce sont des signes du règne de Christ, pour Israël bien sûr, mais aussi pour les nations. Donc nous avons traité d'abord une première étape, c'est que le témoignage de Dieu n'est pas à notre portée. C'est l'objet d'une pleine décision de Dieu à notre égard. Il faut bien entendu un minimum de disposition, c'est-à-dire refuser un cœur idolâtre et désobéissant. Ensuite, Dieu peut, s'il le désire, s'il le veut, se révéler et se faire connaître. Prenons Luc, au chapitre 19 de Luc, verset 42. Comment un Dieu si grand a-t-il décidé de se cacher? Tout simplement parce que nous sommes profondément malhonnêtes avec tout ce que nous recevons de beau et de grand de Dieu, que le péché règne en nous et que nous bafouons la gloire de Dieu. Automatiquement, dès que nous possédons quelques moyens de nous affirmer, de nous mettre en valeur, de nous définir comme intelligents, nous tournons Dieu en dérision. C'est pour cela que Dieu tient à ses distances. Dieu se réserve, en quelque sorte. Ce n'est pas qu'il ne veut pas se révéler, mais il se réserve le droit de se révéler. Luc chapitre 19, verset 42, verset 41. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. C'est caché à tes yeux. Donc, Jérusalem n'avait pas la bonne disposition spirituelle pour comprendre qui était Jésus et qu'il apportait la paix. Et il était bien sûr rentré sous les ovations, assis sur l'anon, mais ces ovations ne voulaient pas dire que les gens aimaient la vérité. D'ailleurs, ils ont démontré leur cœur tortueux en criant « Libérez Barabbas ». Luc 17, verset 20. Quand Jésus parle aux 10 lépreux, bien sûr, évidemment, un seul revient. Dans Luc 17, verset 11 à 19, un seul est évidemment intéressé par la personnalité de Christ, par sa divinité, par sa véritable nature. Les autres ont été guéris, ils avaient ce qu'ils avaient voulu, ils avaient demandé, mais un seul, au verset 15, glorifie Dieu à haute voix. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus, lui rendit grâce, c'est un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais 9 autres, où sont-ils ? Nul ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, nous voyons bien que. La foi s'accompagne toujours de la glorification de Dieu et de son Fils Jésus, le Christ. Et donc là, nous voyons que c'est la petite porte par laquelle s'introduit la révélation du vrai Dieu, du Dieu vivant, à travers la face de Christ. Marc, chapitre 8, versets 11 et 12. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément, son esprit dit : Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Pourquoi Jésus soupire ? Mais simplement parce que le cœur est malhonnête, le cœur n'est pas vrai. Le cœur exige quelque chose de Dieu, mais sans vouloir se remettre en question. Sans esprit de repentance, sans amour de la sainteté et sans révérence, sans considération réelle pour Dieu. Ces personnes désirent rester dans la vanité, dans leur vanité personnelle, sous une forme religieuse ou même aujourd'hui sous une forme athée, l'homme tient sa vanité. Marc chapitre 8, verset 12. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Donc Jésus se refuse à donner les signes que les hommes demandent. Lorsque un aveugle est guéri à Bethsaïda, par Jésus, Marc chapitre 8, versets 22 à 26, cet aveugle est bien sûr présent à Jésus et ceux qui entourent l'aveugle supplient Jésus de le toucher. Et regardons ce que Jésus fait. Au verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Donc, hors du brouhaha, hors des curieux, des badauds, des incrédules. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda : Vois-tu quelque chose ? Il ouvrit les yeux et dit : Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Pensons bien sûr au psaume 23, le juste est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau, c'est-à-dire de la parole, et qui porte du fruit en toute saison. Eh bien là, je vois des hommes comme des arbres et ils marchent, donc sans doute voyaient-ils les apôtres assoiffé de connaître le Messie et assoiffé de la parole de Dieu, déjà enseignée par Jean-Baptiste, mais aussi par Jésus. Donc ils marchent et ils vont sur le chemin de la foi, et donc forcément vers le chemin du salut. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli, voyez, tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, ne rentre pas au village. Donc nous voyons bien que Jésus ne souhaite pas le succès, le tapage, et surtout une fausse gloire, une fausse reconnaissance. Qu'est-ce que Jésus a en arrière-pensée ou a comme objectif? Eh bien, c'est pas compliqué. Nous continuons à lire dans Marc chapitre 8, au verset 30. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qu'il concernait. Oui, Pierre venait de dire que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Au verset 31, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Donc, nous voyons que l'objectif de Jésus est d'accomplir le sacrifice parfait, promis à Abraham, en Genèse chapitre 22, sur le mont Morija, et promis à Adam et Ève, lorsqu'ils reçurent la peau de l'agneau sur leur dos, et ils ont été marqués du sceau de Christ, comme l'explique Romains chapitre 5, verset 14. Et évidemment, Abel a cru ce sacrifice de Christ, et il l'attendait, pas qu'un ne comptait que sur lui-même et ses efforts religieux, qui étaient vains d'ailleurs. Et donc on voit que la même ambiance se représente devant Jésus. Il y a les, je dirais, les disciples de Caïn, les religieux, et puis il y a évidemment ceux qui vont reconnaître que Jésus sera l'agneau sacrifié. Jean-Baptiste l'avait dit à ses disciples. Il l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais combien il est difficile de comprendre ce mot. Cette affirmation vient d'Ésaïe 53, où Jésus va donner sa vie pour nous racheter. Et évidemment, on voit bien que Jésus est le témoignage caché de Dieu jusqu'au jour où il est ressuscité, où il dévoile la gloire du sacrifice accompli. Regardons dans Marc chapitre 6, versets 4 à 6. Jésus dit ceci, Marc 6, verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant la main. Et il s'étonna de leur incrédulité. Donc il manifeste, je vais dire, son mécontentement, il manifeste sa désapprobation vis-à-vis de l'incrédulité. Mais qu'il y ait des miracles ou pas, ils ne vont pas vers la reconnaissance du Sauveur. Ils cherchent simplement des œuvres, des impressions, des émotions et des passions, éventuellement. Des passions provisoires qui disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Mais la foi n'est pas une passion. La foi est une relation sincèrement établie et donnée par Dieu à l'homme. Marc chapitre 3, versets 20 et 21. Ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu le sens. Qu'est-ce que nous voyons? C'est que quand Jésus a choisi ses disciples, quand Jésus a chassé des démons, il a déjà opéré quelques miracles à Nazareth, à Capernaum, eh bien c'est que malgré le brouhaha, malgré le succès apparent, comme lors de meetings, d'une campagne électorale, eh bien Jésus ne se fait pas prendre au piège, il ne croit pas à cette adhésion des hommes. Et d'ailleurs, on voit les proches de Jésus qui veulent l'enfermer, qui veulent le faire taire. Et les chefs religieux, bien sûr, sont derrière tout cela pour remonter les bretelles à la famille, pour dire que c'est Belzéboul qui est Satan qui est en Jésus. C'est le prince des démons. Donc nous voyons cela au chapitre 3, verset 21. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait « il a perdu le sens », et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Béelzéboul est en lui, et car c'est le prince des démons qui, par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Nous voyons à quel point Dieu est caché, Dieu est méconnu. Dieu ne se révèle pas du tout à ces hommes, parce que leur cœur est mauvais. Alors, lisons Marc, chapitre 4, verset 10. Après avoir donné la parabole de la semence, avec les différents terrains qu'il accueille, Jésus est en particulier retiré avec ses disciples. Marc 4, 10. Lorsqu'il fut en particulier avec ses disciples, ceux-ci l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles. Mystère, c'est-à-dire une réalité dont le sens est caché, mais sera révélé par la foi aux disciples, selon la volonté du Père, non pas selon l'intelligence des hommes. Afin qu'en regardant bien, ils ne voient pas, qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Donc Dieu ne veut pas pardonner. Pourquoi ? Parce que le sacrifice de Jésus sur la croix n'est pas encore accompli. Et parce que leur foi n'a pas encore été donnée. Il faut attendre la Pentecôte, l'œuvre de l'Esprit Saint. Procure la foi. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le don de l'Esprit Saint. Continuons dans Marc au chapitre 4, verset 21-25. Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas sur le chandelier ? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être manifesté, rien de couvert qui ne doit venir au grand jour. Donc Jésus est caché, et c'est Jésus qui sera manifesté. C'est Jésus qui est couvert, et c'est Jésus qui viendra au grand jour. Voilà. Versets 33 et 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre, c'est-à-dire selon qu'ils avaient reçu la grâce d'entendre et de comprendre. La grâce divine. Ils n'étaient pas capables par leurs propres neurones, leur propre intelligence. Donc le témoignage de Jésus repose sur un robinet de grâce qui vient du ciel. Un robinet de grâce qui n'est pas automatique, qui n'est pas humain, il est divin. Et donc nous prenons l'évangile de Jean tout au début et nous allons voir que l'apôtre Jean l'exprime formidablement bien dans ce qu'on appelle le prologue. Chapitre 1 de Jean, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, il s'agit de Christ, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc, le mot contemplé chez Jean est bien sûr un acte de réception. Quand quelqu'un fait du parapente, et qu'il est suspendu dans le vide, à ses cordes, sous la voile, il fait un sport contemplatif. Il regarde les vallées, les montagnes, il regarde les hommes, il regarde les animaux. C'est un sport contemplatif. Il n'a pas créé le paysage qu'en dessous de lui. Il le voit grâce à la voile qu'il le porte, d'une autre manière que s'il était en train de marcher sur le sol, ou s'il était assis. Donc, cette position éminente du bonhomme ou de la femme qui est en train de faire du vol à voile est donnée par la voile. Et bien de la même façon, dans la foi, la révélation, la façon de voir Dieu, de voir à travers Jésus l'œuvre et la personne de Dieu, est donnée par l'Esprit Saint. Et donc elle ne peut pas être le fruit d'une intelligence toute simple. Aucun homme n'a accès à cette connaissance par lui-même. Lisons dans Luc au chapitre 14, verset 29. Quand les hommes ne comprennent pas, il y a deux attitudes. Il y a la recherche, il y a l'humilité, ou il y a l'insolence, l'arrogance, l'agressivité, qui répond à une frustration, une vexation profonde, une insatisfaction. Luc 14, verset 29. Versets 28 et 29. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Donc, si je considère que Jésus est venu à Nazareth comme simple menuisier, charpentier, et le voilà qui doit devenir le roi du monde, le roi d'Israël aussi, et qu'il doit établir un royaume, eh bien, si il reste dans des conditions apparemment indignes, il reste dans des conditions apparemment humbles, même plus qu'humbles, eh bien, les autres se moquent. Ils disent, mais il n'y arrivera jamais, il ne pourra jamais bâtir un royaume. Évidemment, c'est ce qui attendait Jésus. Lorsqu'il a été crucifié, tout le monde s'est moqué. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs l'expriment bien en disant « Nous espérions qu'il serait, il rétablirait le vrai royaume d'Israël, comme il avait été promis à David. » Donc, nous voyons que pour construire ce royaume, apparemment, Jésus n'en avait pas les capacités. Les hommes n'ont pas compris la puissance du Messie. Ils n'ont pas compris la dimension, la grandeur de l'humble Messie, du serviteur souffrant annoncé dans Ésaïe. Parce que les hommes s'attendent toujours à des œuvres formidables, à des puissances phénoménales, et lorsqu'ils ne les voient pas apparaître, se manifester, ils posent un jugement défavorable. Voyons ce que Jésus dit dans Marc chapitre 10, versets 24, 23 et suivant. Marc chapitre 10, 23 et suivant. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ils se confient dans leurs biens, dans leurs forces, dans leur argent, dans leurs relations, etc., dans leur religion. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, donc Jésus ici condamne les vanités humaines. Les disciples s'étonnaient encore davantage, se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Ils ont bien compris que le salut n'était pas à la portée de l'homme. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc nous voyons la condition spirituelle de Jésus, elle est formidable. Et il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Donc la vraie foi est d'abord raillée, méconnue, méprisée. C'est ça que je voulais montrer par ces versets de Luc chapitre 14 et Matthieu chapitre 10. Marc chapitre 10. Mais regardons dans Matthieu chapitre 10, verset 27. Matthieu chapitre 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc, Jésus considère qu'il travaille dans les ténèbres, et qu'il n'a pas choisi, et il n'a pas reçu les moyens de se faire valoir. Ce qu'il dit, ce qui vous est dit à l'oreille, ce qu'il raconte, ce qu'il révèle modestement, eh bien, ne s'accompagne pas de puissance, ne s'accompagne pas de moyens médiatiques. Et tout cela, eh bien, montre bien la condition voulue par Jésus, une condition très humble. Quant au verset 26, Matthieu 10, 26, regardons ce que dit Jésus. Ne craignez point ces hommes, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Ce qui était caché, c'est Jésus, et il sera révélé à tous les hommes. Ce qui était secret, c'est Jésus, il sera connu de tous les hommes. Évidemment. Maintenant, le témoignage de Jésus a été refusé dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Donc, on refuse Jésus. C'est plus qu'évident. Ce qui compte, c'est la règle. Ce sont les coutumes. Rien d'autre. Que Dieu puisse révéler, que Dieu puisse agir, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la règle, les habitudes, la tradition. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Donc, nous voyons bien que Jésus va provoquer le monde artificiel, le monde mensonger, le monde qui est mort de la religion, le monde artificiellement croyant, et il va guérir cet homme. Et il va, bien sûr, se faire haïr. Au verset 6, les pharisiens sortirent, se consultèrent aussi avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc, Jésus est en bataille contre le légalisme et le traditionnalisme où il n'y a pas de foi. Il n'y a qu'un pacte avec la mort, comme disait Ésaïe. Ils me diront précepte sur précepte, règle sur règle, a dit Ésaïe. Ils ont fait un pacte avec la mort. Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Que dit Jésus le concernant? Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Il y a tout de même un moyen de rencontrer Jésus, de le connaître. Et c'est par les Écritures. Par les Écritures. Il suffit de regarder Jésus, de voir si ce qu'il dit est en conformité avec les prophètes et s'il est l'accomplissement des paroles prophétiques et de la loi. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoin de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, nous voyons bien que Jésus est la vie éternelle, venue sur terre pour les hommes, mais le moyen de le comprendre, cette vie éternelle, de comprendre le Messie, c'est de comprendre les Écritures. Mais les Écritures en elles-mêmes ne sont pas source de salut. La source de salut est dans le Messie. Et les Écritures sont le moyen d'éclairer et de faire connaître la vraie nature du Messie. Jean chapitre 9, verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs à propos de l'aveugle né qui avait été guéri par Jésus. Donc, ils n'osent pas se prononcer pour Jésus, ils n'osent pas se prononcer pour leur fils qui est guéri. Et donc, ils renvoient les parents vers leur fils et les prêtres vers leur fils, et bien sûr, ils ont beaucoup de craintes. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et plus encore, évidemment, par la suite. Il serait digne de mort. Donc, nous voyons que Jésus est haï, et tout quiconque veut confesser Jésus est haï. Et il est très risqué de croire en Jésus. Verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Donc voilà ce qui se passe. Les responsables religieux n'accordent de l'autorité qu'à la loi et à ce qui est fixe, mais ils n'accordent aucune autorité à Jésus de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22, nous allons voir que Jésus est haï. Pardon. Matthieu chapitre 10, verset 22. Pourquoi est-il haï alors qu'il est si bon, qu'il est tendre, qu'il est plein d'amour, plein de compassion? Jésus dit ceci, Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fouillez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir la ville d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Donc, c'est sans doute pour l'époque des tribulations où l'Israël inconverti sera, au moment où il se convertira, persécuté. Et qu'est-ce que dit Jésus au verset 24? Le disciple, donc l'enseigné, n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, doulos, plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Béelzéboul, donc Jésus, a été traité de Satan, combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Donc, tous les enfants de Dieu seront en pleine lumière, seront révélés comme étant les vrais fils de Dieu. Et Jésus, bien sûr, à leur tête, étant leur Messie. Jean 12, 46 à 54. Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, c'est la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, nous voyons bien que Jésus est humble, il n'est même pas arrogant et pas vindicatif, vengeur. Il veut dire que son enseignement, sa parole et sa personne sont le point de référence qui apparaîtront au dernier jour comme la clé du salut ou la clé du rejet, la condamnation éternelle. Au chapitre 8, verset 59 de Jean, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alors que Jésus a la puissance de les faire mourir, la puissance de rejeter leurs pierres, Jésus s'en va, se cache. Voyons à quel point Jésus avait tout de même la conscience que d'une profonde humilité. Chapitre 10, verset 31, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit, leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les responsables juifs lui dirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Évidemment, chez les juifs, aujourd'hui, les juifs intégristes, rigoureux, c'est toujours le même verdict, et c'est le même verdict chez les musulmans. Chapitre 7, verset 32. Et 44. Chapitre 7 de Jean, verset 32. Et les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Au verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Donc, il y a vraiment un complot, une conspiration contre Jésus, mais il faudra que Jésus se donne sur le mont des Oliviers à ceux qui l'arrêtent. Tant qu'il ne se donne pas, tant que l'heure n'est pas venue, personne ne peut l'arrêter. C'est ainsi que s'est passé le ministère de Jésus. Quand il s'est offert comme sacrifice parfait, c'était de son libre vouloir. Et ce n'est pas dû à un accident de la folie humaine, de la haine humaine. Jésus était haï, il a été diabolisé, nous l'avons vu, dans Jean 8, 48. Il a été considéré comme l'envoyé de Satan, comme l'expression même de Satan. Les Juifs lui répondirent : N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es en toi un démon ? Jésus répondit : Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Chapitre 7, verset 20. La foule répondit : Tu as un démon. Donc la foule suit facilement l'opinion de ceux qui les dirigent. Jésus fut persécuté et donc les chrétiens sont appelés aussi à la persécution. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, bien sûr, à la croix et à la résurrection. Et dans Galates chapitre 4, verset 29, Galates, chapitre 4, verset 29. Que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie ? Comme autrefois celui qui avait été engendré selon l'humain persécutait celui qui avait été engendré selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Le conflit entre la foi humaine, religieuse et la foi spirituellement donnée par Dieu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il y a un antagonisme profond. Donc Jésus, qui est la révélation de Dieu, porte un témoignage caché, un témoignage qui ne sera révélé qu'au jour où Dieu le donne. Et Jésus a la capacité d'être humble et de supporter cette oppression, cette contradiction, durant tout son ministère. Pourtant, Jésus avait toute la puissance et toute la volonté. Il avait toute la capacité de briller et de s'affirmer tout de suite. C'est donc un Dieu qui se cache, comme l'a dit Ésaïe. Et ce n'est pas un Dieu incapable, ce n'est pas un Dieu vain. Jean chapitre 6, verset 14. Ces gens, suite à la multiplication du pain et des poissons, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient vraiment : C'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc ici, il n'est pas persécuté, il est même ovationné, accepté, adulé. Et donc, si Jésus se retire, ce n'est pas par peur, c'est simplement qu'il ne veut pas d'une royauté humaine. C'est ce qu'il va dire, évidemment, à Pilate. À la fin de sa vie, lors de l'arrestation, et du dialogue avec, de l'interrogateur avec Pilate. Jean chapitre 18, versets 36 à 38. Jésus répondit : Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, donc les anges, auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux responsables juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Voici, pourquoi je suis né, voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Au verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Regardons Ésaïe, chapitre 18, verset 7. Ésaïe, chapitre 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront portées à l'Éternel des armées, par le peuple élancé et luisant, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est sillonné par des fleuves, seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, à la montagne de Sion. Donc il s'agit de la Syrie et de l'Irak, qui s'appelait Assyrie à cette époque. Et ce peuple même connaîtra le Christ et fêtera la foi en Christ. Au chapitre 19, il en est de même. Au verset 21, l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel à ce jour-là. Ils rendront un culte avec des sacrifices, des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. L'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel. Il se laissera fléchir et il les guérira. Il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens, donc Syrie, Irak d'aujourd'hui, iront en Égypte. Les Égyptiens en Assyrie, les Égyptiens et les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. Un jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et la Syrie. À être une bénédiction pour toute la terre. Que l'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de ma main, Israël mon héritage. Nous voyons donc que Jésus a déjà programmé son royaume. Voyons déjà que Jésus a proclamé sa reconnaissance. Que Dieu l'a proclamé dans la bouche d'Ésaïe. Et donc, évidemment, Jésus n'avait pas besoin du succès à l'époque où il était sur terre de Nazareth à Jérusalem. Regardons dans Ésaïe 25, au verset 6, l'Éternel des armées, donc des anges, fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, les grandes noces de Cana, si vous voulez. En mieux, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Il s'agit donc de la méconnaissance de Dieu, la séparation éternelle d'avec Dieu est anéantie, et en même temps la mort physique. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages et fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Donc, nous voyons bien que Jésus avait un objectif, et le psaume 89, et bien sûr, le définit aussi. Jésus est roi pour Israël et pour les nations. Donc, tout repose sur des décrets divins, décrets du Père. Jésus ne fait, il est le serviteur, l'humble serviteur qui accomplit les décrets divins. Et Jésus est venu pour donner la vie éternelle. Mais son témoignage est caché. Il se révèle au fur et à mesure de la décision divine, la décision paternelle. Il nous faut donc supplier Dieu pour les nations, que le don de la foi soit donné. Il n'est pas possible de faire par la simple évangélisation, par la propagande, le salut des autres ou de soi-même. Jean chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 65. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il s'agit de Satan. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, puis nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Et Paul dit ça alors qu'il était un homme très religieux. Nous exécutions les pensées, les volontés de notre chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les actions, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes donc son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des actions bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, chers amis, le témoignage caché, le plan divin de notre Dieu à propos de la foi chrétienne et de Christ. Nous considérons que Dieu est le souverain maître qui sauve les hommes. L'Église ne sauve pas. L'Église est une servante de Dieu qui contribue à l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu n'agit pas, l'Église est vaine. Nous croyons donc que nous sommes des serviteurs d'un témoignage qui va se révéler par la grâce de Dieu aux hommes. Nous sommes des serviteurs de la parole qui se dévoile au cœur des hommes, à leur intelligence, par la sainte volonté de Dieu. Soyez bénis.